Hello Yuri.
Comment?
C'est comment frère?
Ça va et toi?
Ça va, cool. Content de te revoir. Ça fait quoi? 2 ans qu'on s'est pas vu.
2 ans.
La dernière fois, c'était au Cameroun.
Ouais,
Mai 2017,
c'était exactement ça,
concert
c'était mai.
exceptionnel devant plus de 30 000 personnes avec Booba et Bagasco au
Au
Stade
stade.
Amadou Ahidjo de Yaoundé.
Ouais.
Tu en gardes quoi comme souvenir?
Un très gros souvenir. Très gros souvenir. Première fois que je chantais au bled, devant ma famille et tout. Et surtout devant 30 000 personnes. En plus de 30 000 personnes. Donc, méga, méga bon souvenir.
C'était une grande réunion de famille
De
un peu.
famille, ouais.
Il y a ton
Ouais.
pote Booba qui était là, il y a Oumar, ton manager et producteur qui était là,
C'est ça.
il y a ton petit frère Magasco qui était là,
Ouais. Et
et le
mon grand
concert
frère
était
qui
organisé
organisait.
par ton grand frère puis Bacardi.
Voilà, c'est ça.
Devant tes frères et sœurs
Mes tantes, tout, mes
camerounais.
cousines,
Ouais.
cousins, tout.
Je me rappelle de ton entrée de scène. Tu entrais sur scène avec
Avec
Yuri Barbarossa
Barbarossa, ouais.
et folie,
Ouais,
folie. Tu as revu les
le...
images depuis ou pas?
Ouais, bien sûr. Mais
Je
moi, je les ai, de toute
crois que
façon,
la
les
terre
images.
a tremblé
Ouais.
quand tu es monté sur scène.
Le truc arrêtait pas de sauter.
Ouais. Bah toi-même, t'es monté sur scène
Ouais.
avec une grosse énergie. Tu es
Ouais.
venu en découdre.
C'est ça, il fallait.
Ouais. Et
Il
ça,
fallait que je
c'est
fasse honneur.
ta mentalité, ça, parce que rien n'a jamais été facile pour toi. Tu as été considéré pendant longtemps comme un rookie,
Ouais, comme l'éternel rookie.
comme l'éternel rookie,
Ouais.
mais aujourd'hui, c'est derrière toi, ça.
Heureusement, ouais. Ouais. Mais après, ça m'a fait, tu vois. C'est les choses qui m'ont fait et qui ont fait ma force et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, moi, je regrette rien. Pour moi, j'ai pas perdu de temps ou quoi. Tu vois, j'ai juste appris, tout simplement. J'ai appris et je me suis forgé.
Trinquons au succès parce que tu as enfin
Je suis
le
d'accord.
succès que tu mérites.
À la nôtre.
Hein? Tu as toujours eu un succès d'estime. Bah maintenant, en
Ouais.
plus du succès d'estime, tu as un gros succès commercial.
Très important.
Et tu y as toujours cru, t'as jamais douté.
Ouais, si. Après, je pense que dans la vie de tout le monde, tu as des petites baisses de régime. Des
Ouais.
moments où tu te dis que bon, est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce que tu fais vraiment ce qu'il faut que tu fasses? Est-ce qu'en vrai, tu n'es pas totalement dans le faux et que tu es le seul à pas le savoir? Mais c'est temporaire. C'est très temporaire et voilà.
Tu es né en 85,
Ouais.
en région parisienne, d'un père camerounais et d'une mère
Togolaise,
togolaise.
c'est ça.
C'est quoi les souvenirs que tu as de ton enfance à Paris?
Les souvenirs que j'ai. On entend mon
Tu as faim?
ventre là? J'ai faim
T'inquiète, on va aller manger après.
de ouf. C'est bon, on n'entend pas. Ok, c'est bon. Non, mais bah, les souvenirs de mon enfance. Mes parents, ils sont restés ensemble jusqu'à, je pense, mes 3 ans par là, 3 ou 4 ans. Avant de divorcer, donc les souvenirs très lointains de ma petite enfance, bah, c'est le souvenir d'une vie de famille à peu près normale, tu vois. En tout cas avec les deux parents qui sont là. Mais bon voilà, très tôt ils sont séparés, donc ce qui fait que bah, mon enfance, moi je l'ai passée auprès de ma mère. Je voyais mon père, hein. Il était pas du tout absent ou quoi que ce soit, mais voilà, moi j'ai grandi avec ma mère.
Et lui, donc ap après la séparation d'avec ta mère, il s'est mis avec une autre
Ouais.
femme. Pete est venu quelques temps avant ce moment-là en
C'est
France, et
ça,
donc il habitait avec
ouais.
eux.
Ouais. Pete et mon autre frère, Thierry,
Ouais.
mes deux grands frères.
Donc quand tu venais en vacances,
Lorsque je venais en
tu passais
vacances,
du temps avec eux
ouais,
aussi.
jusqu'à mes 8-9 ans par là, quand je venais en vacances donc chez mon père, bah, je voyais mes frères et tout.
Mais après, donc Pete a quitté la maison,
Ouais.
c'est là qu'il a vécu dans la rue pendant
Exactement.
quelques années. À ce moment-là, tu étais en contact avec lui ou pas?
Non. Non,
Pas
pas
du
du tout.
tout,
Non,
aucun
pas du tout.
contact.
Non, aucun contact. Ouais.
Il a repris contact à quel moment?
On a repris contact. Je crois que je devais être au collège. En fait, et d'ailleurs, en parlant, je me suis rappelé d'un truc. On a repris contact parce qu'en fait, un jour, il y a Negmaron qui était venu faire un showcase à la Fnac d'Orléans. Parce qu'à l'époque, la Fnac, ils organisaient
Des showcases.
des showcases.
Ouais.
Il y avait une espèce de petite salle, une arrière-salle dans chaque Fnac où les artistes venaient pour chanter. Et donc, il y avait Negmaron qui était venu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de leur show, je suis parti le voir, je leur ai dit, hey, je suis petit frère rapide, hein.
Ils ont dit quoi?
On fait, ah ouais, sérieux,
Ouais.
mais on savait même pas qu'il avait un frère. Si, je te jure et tout, tu vois. Et après, donc, ils ont essayé de l'appeler. Je crois qu'il décrochait pas. Bref, ils lui ont laissé un message ou un truc dans le genre, je m'en fais plus. Et en gros, c'est comme ça que la reconnexion, elle
La
s'est faite,
réconnexion s'est
tu
faite,
vois. Et après, on s'est croisés chez mon père. Non, enfin, peut-être que c'était avant. Tu sais quoi, en fait, c'est un petit peu le fouillis dans ma tête. Ouais. Mais
bah, grosso modo. Ils avaient déjà créé première classe à ce moment-là.
Ouais. Non. Ah, attends. Non, dans ce cas, je dis de la merde alors.
Ouais.
Non, en fait. Ouais, non, en fait, c'est pas ça. En fait, j'étais en vacances chez mon père.
Oui.
Tu vois. Et il y a mon frère qui est venu rendre visite à mon père, tu vois. Ça faisait longtemps qu'il s'était pas vu. Et donc, j'étais là. Et donc, c'est là qu'on a commencé à parler et que je lui ai demandé, ouais, est-ce que tu rappes toujours? Et donc, il m'a dit, ouais, et tout, je rappe dans un collectif qui s'appelle Time Bomb. Je fais, ah ouais, et donc moi, Time Bomb, c'était les mecs que j'écoutais à l'époque, donc Lunatic, Oxmo, X-Men, tout ça, tu vois. Et donc, je dis, ah bon, mais c'est quoi ton nom de rappeur? Il me dit, Pete Bacardi. Et donc, c'est là que je fais, ah ouais, ok, ah, donc c'est toi le Pete Bacardi qu'on entend là avec les autres et tout. Ouais. Et c'est là que j'ai su que c'était mon frère. Mais après ça.
Donc, tu l'écoutais sans savoir que
exactement.
C'était.
Exactement. En tout cas, je l'entendais. Parce qu'à l'époque de Time Bomb, c'était pas celui qui était le plus haut devant de la scène.
Ouais.
Tu vois, donc je l'entends. C'est-à-dire que lorsque les autres faisaient les freestyles et qu'il était là, donc du coup, je l'entendais. Donc, je connaissais son nom, je connaissais sa voix, mais je savais pas que c'était lui, mon frère. Donc, c'est là que j'ai su que c'était Pete Bacardi. Non, je savais qu'il faisait du rap, mais c'est là que j'ai su que grosso modo qu'il avait. Enfin, pour moi à l'époque, il avait percé là, tu vois.
Ouais.
Moi, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai su.
Il passait à la radio, il faisait les freestyles à Génération.
Exactement. Donc pour moi, ça y est, c'était une star.
Ouais.
Donc c'est là que j'ai su que c'était Pete Bacardi, le célèbre Pete Bacardi. Mais c'est pas là qu'on a repris contact. Tu vois. Donc là, j'ai juste appris qu'il rappait, voilà. Et on a repris contact.
Quand Nekmaro
sont venus, voilà, ainsi de suite.
Donc l'époque où il était, il avait fondé
première classe, exactement.
Avec eux.
Voilà, c'est ça.
Donc là, il t'a appelé, c'est comme ça que.
Ouais, mais enfin bon, c'était vraiment de temps en temps, hein, tu vois. On a juste repris contact, tu vois. Et donc de temps en temps, je montais le voir à Paris, là où il habitait. Et voilà, et c'est juste qu'avec le temps, petit à petit, je suis monté plus régulièrement. Et donc du coup, on s'est rapproché.
Comment elle était ta vie à Orléans à ce moment-là?
Écoute, c'est une vie normale hein, d'un jeune de quartier. J'étais là avec mes potes, et on traînait à mort. On a les empreintes de nos seufs sur les bancs sur les bancs de nos quartiers.
Ouais,
non,
on sur traînait. Sur les bancs publics.
Ouais,
sur.
Voilà.
Ouais.
On traînait à la gare, on traînait au centre bus, on traînait au quartier, on traînait. Tu vois, comme je pense comme tous les gamins de cet âge-là. Voilà. Un peu les 400 coups, un peu des embrouilles avec un tel quartier ou truc, machin, voilà, ouais, truc basique. Moi, j'étais un mec. Je suis de nature, de toute façon, assez calme. J'étais pas spécialement. Turbulent ou un mec en embrouille, tu vois. Mais comme mes potes étaient des mecs en embrouille, un peu, avaient des embrouilles, donc ce qui fait que j'étais mêlé au final.
Embarqué dedans.
Voilà, tu vois, mais j'ai jamais été. C'est rare que j'ai provoqué une embrouille, ça se compte sur les doigts d'une main, je pense, tu vois. J'ai rarement provoqué des embrouilles, truc, tu vois. J'ai toujours été un mec plutôt cool, assez réfléchi, et plus dans l'observation et l'analyse que. Tu vois, que dans le bruit et que dans le boucan, tu vois, d'une manière générale. Bon, après, bon, voilà, j'ai mes quelques faits d'armes, comme tout le monde, mais tu vois, j'étais pas un mec spécialement turbulent de ouf.
Ouais.
J'étais très indiscipliné en cours, mais comme j'avais des bonnes notes, en tout cas des notes qui me permettaient voilà, tu vois, je me maintenais. Donc, ce qui fait que ça m'a jamais vraiment causé préjudice à l'école. T'as vu, j'étais pas genre en échec scolaire, j'ai du mal à l'école, non. J'avais aucun mal à l'école. Et d'ailleurs, si j'ai pas été plus loin, c'est vraiment parce que j'étais un flemmard, tu vois. Ça me saoulait, en fait, les cours. Ça me saoulait, j'en pouvais plus, ça me cassait la tête. Donc c'est pour ça que j'ai pas poussé plus loin et que je me suis pas pris la tête plus que ça. Mais en vrai, j'aurais pu faire
de grandes études.
Ouais, je pense.
T'avais tout pour ça.
Je pense. Ouais. En fait, moi, à la base, je rappais parce que j'aimais bien ça, parce que je savais le faire et qu'on me disait que je le faisais bien. Donc, du coup, je me suis un peu pris au sérieux et j'ai commencé à écrire et tout, et à vouloir enregistrer quelques morceaux et tout. Mais pas plus que ça, tu vois. J'avais pas de projet précis, j'avais pas de plan de carrière ou quoi que ce soit. J'avais pas de vision de carrière ou quoi que ce soit. C'est juste que quand j'ai posé mes premiers couplets, mon cousin d'Argenteuil, avec qui je traînais beaucoup à l'époque, m'a dit, enfin en fait il me cassait beaucoup la tête en mode hey, gros tu devrais faire ça plus sérieusement et tout, on devrait faire un truc et tout, même sortir un projet et tout, on invite des gens, un truc, tu viens, ils rappent avec toi, un truc, et voilà, on connaît un petit peu de gens, on connaît 2-3 têtes sur Paname, donc via une tête tu peux attraper une autre tête et ainsi de suite, si on se débrouille bien on peut faire un truc, tu devrais plus te prendre la tête. Donc il m'a un peu, c'est lui qui m'a un peu
poussé.
Ouais, poussé, tu vois. Ouais. C'est lui qui m'a un peu poussé, qui m'a et qui m'a poussé à me professionnaliser et à me dire que ouais, il y a peut-être un truc plus sérieux à faire. Parce qu'à la base, j'étais pas vraiment, j'étais mi figue mi raisin, tu vois. J'étais dans le rap, mais sans y être vraiment. J'étais plus comme un kiffeur qu'autre chose. Donc je rappais comme ça parce que je kiffais, mais j'avais pas de vraie ambition rapologique. Et c'est lui qui m'a mis dans ça.
T'avais ni la vision à Omar, ni la vision à Kenzie.
Ouais, pas du tout. Ouais. Vraiment, à la base, j'étais pas dans ça du tout. Tu vois, je me voyais même pas spécialement réussir dans le rap ou tout. Je me disais que ouais, que j'allais sûrement réussir à faire un petit truc, mais j'avais pas plus d'attente que ça ou plus d'ambition que ça. Donc je faisais le truc un peu comme ça. Mais voilà, c'est lui qui m'a motivé à faire ça plus sérieusement.
Ouais, du coup, vous avez monté un label.
Ouais, enfin un label de métaux. Hein, on a monté notre truc à l'époque.
Vous avez sorti des projets quand même.
Ouais, on a sorti des projets.
C'est joué belle, je kiffe, faut de la douleur, mise en musique. T'inquiète, cousine, j'ai ce qu'il faut de rime dans l'usine. L'instrumental, je cuisine, sans système. T'envoies quoi péter un fusible, man, un beat, une passe. Laisse que le beat, tu me parles, le rap, c'est le beat, une passe.
Tu vois, Bolide 1, donc c'était en 2004.
Bolide 1, Bolide 2.
Ouais, Bolide 2. Ensuite mon cousin a arrêté le business de la musique. Donc j'ai eu une petite période où j'étais un peu seul et après j'ai commencé à bosser avec des mecs de ma ville, des mecs de chez moi, d'Orléans. Et donc avec eux j'ai sorti Desperados, la mixtape Desperados.
Et, t'as fait un film
ouais, Karma.
Karma.
Karma, ouais.
Ce soir, grand soir.
Vas-y, j'arrive.
Ok, à tout de suite.
La BO de Karma, c'était quoi 500 ventes la première semaine.
La BO de Karma, putain, je me rappelle. Moi, ouais, je crois, il me semble. Hein. Non, ouais. Non. Si.
500 ventes ouais, première
ça.
Semaine.
Ouais, c'était ça. 500 ventes première semaine, ouais. Ouais.
T'étais content ou tu te disais non
ouais. Non, j'étais archi pas content. Non, j'étais pas content. Mais après, je m'attendais pas spécialement plus. Je connaissais ma réalité. Donc, je savais que j'étais... En fait, si tu veux, le Karma, je l'ai pas fait pour exploser. Je savais que j'étais dans un travail. Donc, je l'ai fait parce que je savais que ça allait me permettre... de faire plus après, tout simplement, tu vois. Donc je l'ai fait, ça a eu le retentissement que ça a eu à l'époque. Donc pas de ouf, mais en tout cas, voilà, le truc a été bien reçu, il y a un bon succès d'estime, la BO était bonne, il y avait des bons morceaux, ouais. Le film avec les moyens du bord de l'époque, bah écoute, il était pas si dégueulasse que ça, tu vois, il était honorable, le résultat.
Ouais, et... Bon film avec beaucoup de rappeurs.
Ouais. Il y avait pas mal de rappeurs qui sont devant de la scène maintenant, d'ailleurs. Ouais. Tu vois. Par exemple, Fianso, Lalco, il y avait Escobar Maxon, il y avait Niro, il y avait Seth Gecko, il y avait... Je dois sûrement en oublier.
En fait, là tu as réussi avec ce projet-là à lier tes deux passions, le cinéma et le rap.
Ouais, totalement. Et donc, voilà.
Donc, satisfaction quand même.
Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Je promets à la daronne qu'un jour je ferai mon trou. Le daron m'a dit de viser droite, pas louper mon coup. J'ai promis à mes frères que jamais je trahirai le crew. Jusqu'à ce que ma débrouille soit à terre et qu'on me prenne le pouls.
Tu sortais tes projets en indépendant, mais tu as commencé à sentir que tu avais besoin d'un encadrement, que tu pouvais pas continuer à être rappeur, producteur, manager.
Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que parmi les mecs avec qui je bossais, j'avais un de mes potes qui avait eu quelques soucis... de justice, donc il s'est absenté pendant un certain temps et les autres ont arrêté tout simplement, donc je me suis retrouvé tout seul. Et en fait, c'est quand je me suis retrouvé tout seul que j'ai fait Karma, justement. Tu vois, c'est quand j'ai fait Karma mais ouais, je sentais que tu vois que je me heurtais un plafond. Et je voyais pas trop comment aller au-dessus. Je voyais pas trop ce qu'il fallait que je fasse pour évoluer, en fait. Donc c'est à ce moment-là que j'ai passé un coup de fil à Omar, que je connaissais depuis quelques années, parce qu'en fait, faut savoir qu'Omar, les premiers pas dans la musique, en tout cas de manière professionnelle qu'il a fait, c'était avec mon frère.
Avec Pete.
Donc ouais, plus de 10 ans avant. Ouais. Tu vois, à l'époque, Pete bossait sur son retour et tout, il avait sorti une mixtape qui s'appelait... Je me rappelle plus du nom. Enfin bref, peu importe. Et donc moi j'ai connu Omar à cette époque-là. Donc on était plus ou moins restés en contact, un peu lointain, mais bon voilà, en gros on se connaissait, et, voilà, on s'appréciait. Et un jour j'ai passé un coup de fil et je lui ai demandé. Je crois qu'à l'époque il venait de signer Joke. Il venait de signer Joke et tout. Et je lui ai demandé que, en gros, voilà, toi qui as un pied
dans le business
et un pied dans la rue, dans le rap un peu d'en dessous, de l'extérieur, qui, selon toi, me manque? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu vois, qu'est-ce que je peux faire pour upgrader mon game, en fait, tout simplement. Et donc, voilà, il m'a dit, écoute, voilà, moi, je pense qu'il faut que tu fasses ci, ça. Il y a une image à renouveler, il y a à rajeunir même un peu. Enfin, en gros, voilà, tu vois, il y a des petites révolutions à faire dans ton artistique, dans ton visuel, etc. Et ça peut commencer par te mélanger un peu avec la nouvelle génération, tu vois, et pas que rapper avec des mecs qui sont de la génération du dessus, tu vois. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de collaboration avec Joke, tu vois, et donc Miley. Et c'est suite à ça, en fait, qu'on a fait Miley. Tu vois, il m'a dit, voilà, par exemple, t'as vu, moi j'ai mon petit là, Joke et tout, il est chaud, il apprécie ce que tu fais. Et moi je pense qu'un morceau de vous deux, ce serait bien, tu vois, parce que lui, il a cette fraîcheur de cette nouvelle génération là,
ouais.
Et toi t'as le crédit de la génération du dessus et tout, tu vois, ouais. et le mix des deux, ça peut donner un bon truc, et donc ça a donné Miley, justement.
Pas le même génie, pas le même flow, pas le même débit, 45 Orleans MTP, folie furieuse à la OTP.
Donc là t'as senti qu'il y avait un truc et...
Bah il s'est boit, de toute façon ça a été immédiat, Miley ça a marché, les gens ont pris, ils ont accepté, ils ont pris le truc, ils l'ont compris, et voilà, donc ça m'a mis un pied dans la nouvelle ère, en fait, tout simplement.
Ça t'a décidé à bosser avec Omar aussi, parce que l'appelles, premier conseil,
suite à ça que
tu fais un succès.
Ouais. Bah, déjà, parce qu'il a eu raison du premier coup. Déjà, à l'époque où je sortais Karma, je cherchais une boîte pour me distribuer. Et donc c'est lui qui m'avait un peu arrangé le coup avec Musicast à l'époque pour distribuer Karma, tu vois. Donc c'est lui qui m'avait arrangé le rendez-vous, etc. Et donc c'est via lui que j'avais pu avoir le deal pour sortir Karma. Donc ensuite, en effet, après je l'ai rappelé pour lui demander un peu des conseils et tout. Et suite à ça, en fait, ça s'est fait un peu naturellement, tu vois. On a commencé à juste s'appeler un peu plus régulièrement.
Discuter, oui.
Et puis au final, voilà, on s'est dit que, on bosse ensemble,
donc,
tout simplement.
Donc 2014, il devient ton manager.
Ouais.
Et vous signez chez Def Jam.
2013 ou 2014 même. Ouais, grosso modo, vers ces eaux-là. Et donc c'est là qu'il me signe à Def Jam, en 2014.
Et là, vous sortez
Perestroika,
un autre tube, le coup du patron.
Ok,
Yuri, Durga, Joki, Bourmet, Oji, mes pulcras, Mendoki.
Ouais. Et Perestroika, c'est du russe, ça veut dire reconstruction.
Exactement, reconstruction, restructuration. En fait, c'est le nom d'une politique qu'avait menée Gorbatchev dans les années, je ne sais plus combien, en Russie. Voilà, une politique de restructuration économique, sociale, etc. Et voilà, il avait appelé ça Perestroika et j'avais trouvé le nom beau.
Ouais.
Perestroika, je trouvais que ça faisait...
Et tu étais à un moment, justement, où tu avais besoin de te,
exactement.
De te reconstruire.
Ouais, voilà.
Ouais.
C'était pour moi le projet de la reconstruction, de la restructuration, où je restructurais tout, mon artistique, mon business, tout.
Tu as sorti une série de hors-série pour annoncer ce projet-là, notamment Nirvana, que j'ai adoré, où tu as samplé
Nirvana de Doc Gineco. Exactement. Ouais, c'est un de mes morceaux préférés de Doc Gineco.
Ouais.
Et je m'étais toujours dit que, en fait, la partie du début, là...
Ouais. Ah, elle est magnifique.
Ouais, dans la partie du début.
Le piano et la voix
exactement,
derrière, là.
Exactement. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, je samplerais ce truc-là, que c'était trop lourd.
Yeah. À mon avis, c'est chacun sa merde, chacun son navire. La vérité, c'est que tout le monde te blessera un jour ou l'autre, c'est ça la vie. La seule question que je me pose, pour qui ça vaut la peine de souffrir? Jusqu'à combien d'années de prison tu serais prêt à me couvrir?
Perestroika, c'est le projet de transition. Ça y est, tu t'étais reconstruit.
Ouais.
Tu étais enfin prêt à sortir ton premier album que tu as sorti sur le tard.
Après 10 piges de carrière.
Ouais.
Ouais, premier album.
C'est rare.
Ouais, c'est rare. Ouais.
Mais tu te sentais pas prêt avant à le sortir?
En fait, je me suis cru prêt plusieurs fois. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'en fait, heureusement, j'ai jamais sorti d'album parce que j'étais pas prêt en vrai. Tu vois, il y a plein de trucs que j'ai compris sur le tard, justement. Tu vois, quand pendant des années, tu agis d'une certaine manière, En fait, tant que tu captes pas réellement qu'il y a des choses dans ta manière d'agir même, qu'il faut que tu changes, et ben les choses n'évoluent pas comme elles le doivent, tu vois. Et moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Et il y a plein de petits détails comme ça que j'ai compris sur le tard. Et donc, au moment où Yuri est sorti, ben, avec le recul, je me suis dit qu'en fait, heureusement que ça sort maintenant.
Ouais.
Là, maintenant,
si
j'ai...
Si c'était sorti plus tôt...
Ouais. Déjà, ouais, artistiquement, je pense que ça aura pas été... aussi riche, aussi fort. Et puis ouais, et puis même businessment parlant,
Il y a 7 jours dans la semaine, cette couleur tu peux rendre de billets. Si c'est un signe, qu'il en soit ainsi. Je vais récupérer l'or qu'ils ont pillé. Hey.
Sur l'album, il y a Young Tuck, que t'as invité sur Milliers d'euros, premier single de l'album d'ailleurs.
Ouais.
T'as invité Tory Lanez aussi, l'infréquentable
Booba.
Avec qui tu avais déjà collaboré parce qu'il t'avait invité sur son album Lunatic. Ouais, sur la chanson 45
scientifiques.
Ouais.
Priez pour que je me perde, parce que dans le cas contraire, les fins de carrière seront nombreuses. T'auras plus qu'à lancer des rumeurs sur ta propre mort pour te récupérer ton buzz. Je suis l'infréquentable, je suis au volant du cop. Y'a mes Kaira qui cobrent, je suis l'infréquentable. L'infréquentable, pieds sous la table, y'a toute la boîte qui tape, bitch.
Tu vois, je parlais de maturité parce que l'album est extrêmement riche, éclectique. On sent que quand tu as bossé dessus, tu savais exactement ce que tu voulais faire. Il y a pas mal de chansons que j'aime beaucoup, comme 25 décembre, super titre.
Ouais.
Et puis il y a le titre avec Nekfeu aussi qui est...
Ouais,
putain, il est énorme,
celui-là. Ça fait partie de façon des titres que les gens ont préférés sur l'album.
Ouais.
Ouais, 25 décembre, pareil, les gens... J'ai été surpris parce que 25 décembre, pour le coup, il y a vraiment tout type de personnes qui m'ont dit qu'ils kiffaient ce morceau. Et pourtant, des gens qui sont pas spécialement rap, même des meufs et tout. Enfin, tu vois, le type de morceau que c'est pas un morceau qui a vocation, en tout cas...
Ouais, ça m'enchaîne l'écoute.
Ouais, voilà, tu vois, et en plus d'écoute pour les aficionados de rap. Parce que c'est un morceau de pur rap,
Mon préféré de l'album.
Et j'ai été super surpris de voir le retour de gens, vraiment. Je m'attendais vraiment pas à ce que c'est sur ce morceau-là qui tilt. Donc tant mieux, hein. Écoute, c'est une réussite.
Toi, c'est quoi ton préféré de l'album ?
De Yuri ?
Ouais.
25 décembre en fait partie. Moi, il y a un morceau que j'aime beaucoup sur Yuri. Qui a pas eu plus de retentissement que ça, mais c'est Cœur de Pirate.
Ah, j'étais sûr que t'allais dire ça. Il est bien, il est super bien. Cœur de Pirate.
Je le kiffe de ouf, Cœur de Pirate.
Ouais.
Dis-moi laquelle sera clip pour soigner les blessures d'un cœur de rapide. Soit je vais clever. Je vais inonder le carré, claquer des lobés. Et je vais rentrer accompagné. J'ai plus de frein, plus rien. Passons avec ma grosse pire.
Sur Putain d'époque, tu donnes peut-être la recette qui t'a permis de sortir enfin ce premier album et d'avoir ce niveau d'efficacité. Parce qu'un jour, un ami t'a dit que tu donnes du caviar au porc.
Un jour, un ami m'a dit, ton problème c'est que tu rappes trop fort. Tu gaspilles ton énergie pour tu. Tu donnes du caviar au porc. Alors j'ai dû simplifier mes écrits. Mais y'a des fans qui sont pas d'accord. Ils réclament du dos, c'était à l'époque. Désolé, mais la loi du plus grand nombre l'emporte.
C'était un jour lors d'un concert à Marseille que j'avais fait à l'époque. Je me rappelle plus à quelle occasion, avec qui, je sais plus. Mais bref, j'étais à Marseille pour un concert. Et là-bas, j'ai croisé un supporter qui m'a pris à part après le concert et qui m'a dit « Tu sais, mon ref, toi, ton problème, c'est que t'es beaucoup trop fort. » Et en fait, les gens, ils comprennent pas. Ils arrivent pas à capter. Ils captent pas la profondeur de ce que tu dis. Pour moi, tu devrais juste...
Baisser un peu.
Descendre d'un cran. T'as vu le niveau de complexité de ton écriture. Et ça viserait pile. Et ça m'a marqué, tu vois. Ça m'a marqué. Mais un mec, vraiment, enfin un inconnu, hein, t'as vu, un mec, en plus, un gamin, je sais pas, il devait avoir peut-être 18 piges, tu vois. Il me disait, ouais, t'as vu, moi, je suis en cours, hein, je suis un gamin, j'ai 18 ans, je te donne juste mon avis, parce que gros, je te dis, j'écoute tes sons, je t'écoute depuis que j'ai 15 ans, et moi, je comprends ce que tu dis. Ouais. Mais les gens, ils comprennent pas. Quand je fais écouter aux gens de ma classe, ils captent pas, t'as vu, c'est des cons, ils comprennent pas. C'est vrai, je te jure. Ah non, mon père, il m'a parlé français, il m'a dit, non, gros, je te dis.
Et c'est l'analyse.
Tu baisses juste d'un cran.
Ouais.
Et pour moi, c'est droit au but. Et c'est un truc qui m'a...
Ouais, qui t'a fait réfléchir.
Ouais, pour de vrai. C'est, ça m'a marqué. Vraiment, ouais. Ça m'a marqué. Et donc, ce qui fait que ça agit dans le processus de mise à jour du
système. D'ailleurs, si ça se trouve, il sait pas que c'est de lui que tu parles dans la chanson. Si ça se trouve.
Ça se trouve, hein. Ça se trouve, il sait pas. Ça se trouve. Mais avec ce que je viens de raconter...
Il va comprendre.
Il est censé s'en rappeler, lui.
Il va comprendre, oui. Il va dire, ah ouais, c'est moi qui parle. Il va dire à ses potes que son ami, là, c'est moi.
Ah, de ouf. Ah, de ouf.
Donc, tu as simplifié ton écriture, en fait.
Ouais. Simplifier, ça veut pas dire rendre le truc simpliste. Hein.
Ouais.
T'as vu, les gens...
En fait, c'est compliqué de faire simple. Les gens se rendent exactement.
Bien sûr. En fait, c'est compliqué d'être plus simple, mais en restant pertinent.
Ouais.
Tu vois, en restant
d'être
pertinent.
D'être plus accessible, c'est peut-être c'est le mot
en fait.
Accessible.
Ouais, d'être plus efficace, tout simplement, en fait.
Gros succès pour ce premier album.
Ouais.
Là, déjà, j'imagine que t'étais content, là.
Ouais, bien sûr. Bah, ça m'a fait passer au rang d'artiste confirmé.
Ouais. T'as cessé d'être un rookie à ce moment-là.
Ouais, c'est ça, ouais, exactement. J'ai cessé d'être un rookie, je suis passé au stade d'artiste confirmé, donc voilà, j'ai mon album, j'ai mes projets avant, j'ai mon album, c'est, tu vois, ma carte de visite, elle est complète, là, ouais. Il y a eu des trophées qui se sont ajoutés à ça, donc ouais, album disque d'or, infréquentable single de diamant, putain d'époque, single d'or. J'ai commencé à faire un peu de scène, des showcases et tout, tu vois, et en gros, le truc a commencé à se faire. La sauce, elle a commencé à monter.
Ouais. Seul regret, peut-être, le magnifique clip de Putain d'époque qui a été retiré
de YouTube, ouais, malheureusement, ouais, à cause de...
Il était charmé, le clip.
Hein. Bah ouais, non, mais il était lourd.
Ouais.
Donc, clip fait par Nathalie Canguilhem, qui avait aussi fait le clip de Young Thug, enfin, du morceau avec Young Thug, entre autres, et qui a fait là, le dernier clip de Travis Scott. Pour info. Enfin bref, bête de clip.
Bref, charbonne quoi.
Charbonne, elle est très talentueuse, ça. C'est vraiment une grosse réale, tu vois. Le clip avait été retiré YouTube à cause d'une plainte d'un artiste qui s'appelle Kader Atia, qui s'était plaint qu'il y a une des scènes du clip qui reprend l'une de ses œuvres, qui plagie l'une de ses œuvres. D'après lui, enfin, ouf, tu vois. Et donc, du coup, je sais pas, dans la panique. Ils ont retiré le clip, enfin, n'importe quoi, tu vois. Alors qu'en vrai, devant n'importe quel jury ou je sais pas trop, devant n'importe qui, on aurait pu démonter son truc en 2-4-6. Qu'est-ce que tu racontes, ma gueule ?